Bonjour Charlie.
Bonjour Maude.
Bienvenue dans Figure de dépendance.
Un balado qui mêle l'art, le documentaire et le médical.
Cet épisode est le cinquième d'une série de six proposée dans le cadre de la sixième édition du colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes.
Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du traitement des dépendances au sein des communautés autochtones, et plus particulièrement le fonctionnement d'un centre de réadaptation basé à Latuk, en Mauricie.
Comme il y a parmi vous des personnes qui vivent en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, nous allons prendre le temps de vous expliquer certains termes, certaines réalités que peuvent rencontrer les membres des 11 nations autochtones au Québec.
Autochtone, c'est un terme général qui englobe les Métis, les Inuits et les Premières Nations. Parmi les Premières Nations, on compte les Abénakis, les Anishinabés, les Atikameks, les Cris, les Huron-Wendat, les Innu, les Malécites, les Mi'kmaq, les Mohawk-Kanien-Keaka et les Naskapi.
Charlie et moi, nous sommes des Alloctones, c'est-à-dire que nous venons d'ailleurs. Il y avait des gens sur le territoire sur lequel nous nous trouvons, que l'on désigne par le terme autochtone.
Pendant l'émission, vous allez entendre parler de numéros d'Indiens. Il faut comprendre qu'il existe ici une loi qui définit qui est Indien et quels sont ses droits. C'est un statut officiel.
Vous entendrez aussi parler de communauté ou de réserve. Selon la loi sur les Indiens, une réserve indienne est une terre détenue par la couronne pour l'usage et le bénéfice des bandes indiennes. Environ 40% des Autochtones ayant leur statut d'Indien vivent dans ces communautés.
Pour réaliser cet épisode, j'ai longuement échangé avec Nathalie Basile Guillemette, qui est responsable des admissions et des services externes dans le centre de réadaptation WAPAN.
Donc, moi, mon nom, c'est Nathalie Basile Guillemette. Je suis originaire de la communauté de Wemontashi. J'ai une maman qui est originaire, d'ailleurs, de cette communauté-là, qui est Atikamek. Donc, par le fait même, moi aussi, je suis Atikamek. Et j'ai un père aussi qui est québécois. Donc, autrement dit, dans le fond, ben moi, j'ai les deux cultures avec moi. Donc, c'est ça. Je suis, comme on peut dire, Première Nation, oui, j'ai ma carte, mais je suis métissée.
Est-ce que tu pourrais un peu présenter le centre WAPAN à des gens qui ne connaîtraient pas du tout votre travail?
Absolument. Donc, c'est ça. On est un centre qui est basé en Mauricie, à Latuk plus précisément. On accueille toutes les Premières Nations des quatre coins du Québec. Dans le fond, nous, ici au centre, étant donné qu'on est la majorité majoritairement francophone, on prend uniquement une clientèle qui parle français. Sinon, s'ils parlent leur langue maternelle, c'est tout aussi correct, là, ça ne dérange pas, sauf que, tu sais, dans le fond, les ateliers se font en français, voilà. Puis sinon, en fait, le contenu du Centre WAPAN, c'est justement un centre de réadaptation, comme je disais tantôt, en dépendance, puis c'est pour Première Nation, 18 ans et plus. Puis nous, ici, au centre, ce qu'on désire, c'est qu'ils atteignent une espèce de mieux-être, tant au niveau spirituel, mental, physique, et émotionnel.
Vous êtes à Latuk. Est-ce que les gens qui travaillent là, tes collègues, sont Atikameks ou pas forcément? Il y a plusieurs nations.
Pas forcément. Il y a plusieurs nations. Puis qu'en plus, il y a aussi des Alloctones. Actuellement, je pense qu'on est comme moitié-moitié. On accueille beaucoup de Atikameks. On accueille aussi des Cris, des Innu, beaucoup d'Innu. Donc, de la communauté de Projet de Robertval, de Mashtoyash. Puis, ouais, c'est ça, c'est quand même assez mélangé, là, je peux dire ça comme ça, là.
Ça apporte quoi comme force, que ça soit différentes nations, et des autochtones et des allochtones, toi, que ce soit un mélange dans l'équipe?
Moi, ce que je vois, dans le fond, c'est que ça apporte la confiance, ça apporte aussi un soutien de « OK, garde, elle est Atikameks aussi ». Elle va me comprendre à travers la communauté dans laquelle je vis parce qu'elle aussi, elle a vécu dans la même communauté. Donc, elle sait c'est quoi quand je parle du bonichois, par exemple. Elle sait c'est quoi quand je parle des chiens dans la communauté qui se promènent. T'sais. Elle sait c'est quoi, tu sais. Donc, ça leur apporte une certaine forme de sécurité. Sinon, pour ce qui est des personnes allochtones qui travaillent ici dans le centre, ils ont été comment je pourrais dire ça? C'est une belle capacité d'adaptation aussi avec ça. Puis je sais que les Premières Nations sont ouverts d'esprit. Puis les, pour ce qui est des forces, ben c'est toujours plaisant parce que récemment, en fait, j'ai eu une soirée ici avec eux. Puis ils montraient les grands leaders autochtones de par leur nation. Donc, les leaders Cree, c'était qui? Les leaders Atikamekw, c'était qui? Les leaders Innu, c'était qui? Puis après ça, dans le fond, on a comme découlé. Puis après ça, on s'est dit, oh, écoute, on est même allé jusqu'aux États-Unis à savoir, dans le fond, qui a fait quoi dans l'histoire. Là. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi les légendes, les contes aussi, que ça, récemment, on a eu une belle soirée parce qu'on comptait des contes et légendes à saveur autochtone, là, tu sais.
Plutôt que de raconter nous-mêmes, nous avons choisi pour cet épisode de collaborer avec Nicole Obonsawin, une conteuse et anthropologue abénaki. Nous lui avons parlé du sujet et voilà l'histoire qu'elle a voulu nous raconter.
Il était une fois. Il était une il fois. Était il une était fois. Une fois. Il était une fois.
C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Grande Flèche. Grande Flèche, et puis c'est l'histoire de deux enfants, en fait, c'est Grande Flèche, et puis sa sœur Petit Lièvre, donc Petit Lièvre, et puis c'est deux enfants qui étaient orphelins. Alors Grande Flèche, lui, en plus, il était sourd, donc les gens de son entourage trouvaient qu'il était bizarre, trouvaient aussi que il comprenait rien. Donc, il était bon à rien, en fait, parce que il comprenait pas ce qu'on lui disait, il réagissait pas, il y avait aucune réaction dans son visage, dans le fond, ni sourire, ni triste, ni rien, il était neutre. Donc, on disait que c'était vraiment le garçon bon à rien. Puis un jour, la petite fille, qui était quand même jolie, donc elle est adoptée parce que c'était une orpheline, et puis les gens l'ont adoptée, mais ils voulaient pas avoir le garçon. Donc, Le pauvre garçon, il s'est retrouvé tout seul. Puis, comme surnom, on lui donnait Bas à rien. Donc, Bas à rien, il était tout seul. Et puis, il vivait un peu avec les animaux, avec les chiens dehors, dans le fond. Et puis, c'est ça. Donc, un jour, le campement a déménagé, mais il ne voulait pas amener Bas à rien. Donc, il s'est mis à suivre les pistes pour trouver, pour aller rejoindre le campement, en fait. Puis, chemin faisant, il y a comme un serpent qui lui sort de son oreille gauche. Et puis tout à coup, il se met à entendre les oiseaux de son oreille gauche, les oiseaux qui chantent. C'est la première fois qu'il entend ça, donc les yeux, ils viennent tout grands parce que là, il entend pour la première fois des sons qu'il n'avait jamais entendus. Et puis, chemin faisant, il y a un petit serpent qui lui sort de l'oreille droite. Et puis là, tout à coup, il entend le ruisseau qui coule près de lui. Donc là, il est tout heureux, il a un sourire dans le visage, et puis là, finalement, il retrouve le campement, il s'installe au campement, il continue à l'appeler Bon à rien, mais il y a un grand-père qui l'a adopté. Il y a un grand-père qui l'adopte, et puis qui dit, c'est pas son nom, Bon à rien, c'est Grande Flèche. Donc lui, moi, je veux l'adopter, je veux qu'il fasse partie de ma famille. Sa femme voulait rien savoir, parce qu'elle disait, qu'est-ce qu'on va faire avec lui, il est Bon à rien. Il dit non. Il dit, moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose dans cet enfant-là qui va te surprendre. Il dit, fais-lui des mocassins, fais-lui une belle robe, un beau manteau, et puis il va faire partie de notre famille maintenant. Et puis un jour, le garçon a dit à son grand-père, moi, j'aimerais faire quelque chose de grand, faire quelque chose de plus grand, pour montrer, d'abord pour que tu sois fier de moi, mais aussi pour montrer aux autres que tu as eu raison de m'adopter. Le grand-père lui a dit, si tu veux, ça fait longtemps qu'on cherche à avoir le grand lièvre qui nous protège, parce que là, c'est lui qui protège tout le village, et puis on l'a pu, il est gardé dans le fond, dans un lac très loin derrière. Fait que là, c'est le grand-père lui dit comment faire pour se rendre jusque-là, mais il dit peut-être que tu ne pourras pas y aller tout de suite parce que ça va prendre quand même une grande préparation pour que tu sois plus grand, plus fort, etc. Et donc, le jeune dit non, moi, je suis prêt à y aller, je vais y aller tout de suite pour montrer que tu as eu raison de m'adopter. Et puis là, il y a eu toute une préparation, il y a la purification, il y a le sweat lodge qui doit passer à travers, il y a tout plein de choses. On lui fait un petit sac qu'on lui met au cou pour le protéger des mauvais esprits tout au long où il va s'en aller sur sa route. Il rencontre plein de défis, bien sûr. Il sera au lac où il y a un gros monstre dans le lac. Et puis, le monstre qui est dans le lac protège, bien sûr, le lieu où se trouve le grand lièvre. Puis le jeune n'a pas de peur du tout parce qu'il est protégé. Il sait maintenant que lui, il a une mission, il a un but. Le monstre dit, ah, moi, j'aime ça, un jeune, un humain qui n'a pas peur de moi. Et puis, il lui ouvre la voie pour aller trouver le grand lièvre. Finalement, ben, il se rend de l'autre côté du lac. Il ramène le grand lièvre avec lui. Hein? Il ramène avec lui au village. Et puis, il arrive au village avec le grand lièvre. Tout le monde est vraiment étonné de voir arriver le jeune. Les gens ont dit, mais c'est merveilleux. Il a ramené grand lièvre pour nous protéger. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur pour la communauté. C'est quelqu'un qui a pas peur de rien, qui a aidé. Et puis, on dit que ben, le grand-père était vraiment fier de son petit-fils. Hein? Il était vraiment fier de son petit-fils et que toute la communauté vraiment a commencé à appeler Grande Flèche et non plus Bon à rien, comme au départ, c'était le nom qu'on lui avait donné.
Nathalie du Centre Wapan nous a expliqué les méthodes avec lesquelles elle et il accompagnent les personnes en situation de dépendance.
On a trois approches, en fait. La première approche, okay, c'est sur les 12 étapes des alcooliques anonymes, si je peux dire ça comme ça. C'est l'approche, le modèle Minnesota, pour ceux qui sont comme plus... connaissant dans ce domaine. Sinon aussi, on a une approche qui est spirituelle autochtone. Celle-ci, dans le fond, c'est vraiment en lien avec la guérison, avec la spiritualité des Premières Nations. Donc, c'est tout ce qui touche l'identité profonde des Premières Nations. C'est vraiment, tu sais, on va voir, mettons, exemple, qu'est-ce que la jupe représente pour les femmes. Sinon aussi, tout ce qui est de la médecine aussi au niveau des Premières Nations. Donc, c'est ça. Avant la pandémie, on avait des temps de sédation de prévus ici au centre. Donc, des sweat lodges, comme on appelle. Puis, étant donné, dans le fond, la pandémie avec la distanciation de main, actuellement, on ne peut plus en faire. Mais c'est ça, c'est des choses qui étaient très, très, très appréciées au niveau des Premières Nations. Sinon aussi, on a tout ce qui est format artisanat. Les Premières Nations, nous, on est très, très, très bons dans l'art. Donc, puis dans l'artisanat, puis dans la minutie aussi. Donc, c'est ça. Sinon, tout ce qui est format de contes, de légendes, de cercles de paroles, ça aussi, ça fait partie de notre approche ici au centre. Puis, je vous avouerai aussi qu'actuellement, on fait beaucoup de smudgeage, là, qu'on appelle. Donc, mettons, tout ce qui a trait avec, justement, le calumet, puis après ça aussi avec la plume, puis après ça, on smudge les gens. Sinon, ben, on a une dernière approche qui est l'approche socioculturelle. Donc, la cueillette des petits fruits dans le bois. Sinon, des fois, on va mettre aussi des pièges à castors dans le bois. L'hiver, on peut faire de la pêche sur glace. Sinon, l'été, des fois, ils partent en canot. Puis après ça, justement, dans le fond, il y a des belles activités avec ça. Donc, la chasse, la pêche, la cueillette de petits fruits. Sinon, prendre des thés dans le bois avec aussi des petites biscottes. Là, vraiment pour revenir vraiment à nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Puis revenir en fait à notre identité même. Là. C'est super.
Et c'est quoi pour toi l'impact de ça, de renouer avec des racines, des pratiques ancestrales pour les gens qui sont en situation de dépendance?
C'est renouer en fait avec notre propre identité parce que souvent la dépendance fait en sorte qu'on oublie qui on est. On se met des masques, puis où on gèle en fait nos émotions, on gèle qui on est. Tu sais, il y a une blessure à quelque part justement qu'on essaie de plus voir.
Nous ne sommes pas les mieux placés pour vous expliquer ces blessures dont parle Nathalie, mais c'est important que vous sachiez qu'ici en Amérique du Nord, les territoires ont été envahis et occupés avec une grande violence. Une colonisation faite de rafles, de pensionnats, de restrictions, de brutalité et de génocide culturel.
L'enseignement, en fait, qui sont offerts aux Premières Nations ici au centre, surtout qu'est-ce qu'on se consacre, c'est vraiment en lien avec la roue médicinale, que cette fameuse roue-là, elle a été blessée par le passé, puis que tu sais, une personne okay, qui a été née en 90 versus une dame, mettons, un homme qui est né dans les années 1970-60, la blessure, elle est là quand même. Donc ici au centre, on se consacre, oui, sur l'individu même, mais aussi sur le phénomène, dans le fond, que ça a créé, tout ce qui est des pensionnats, tout ce qui est des brisures de société qu'il peut avoir eu dans le parcours des Premières Nations.
Est-ce que ça apporte des choses, qu'il y ait des gens de générations différentes qui se croisent au centre?
Ça apporte la guérison. C'est vraiment ça. Ça apporte la guérison parce que la plupart, en fait, pour ce qui est des jeunes, eux, sont en mode apprentissage. C'est souvent les premières, deuxième, troisième thérapies. Donc, tu sais, souvent, c'est à fret, là, mettons, si je peux me dire ça comme ça. Puis, sinon, après ça, les coucoums puis les mouchoums, comme on aime les appeler, apportent justement la sagesse, le calme. Eux, ils ont vécu une multitude de choses. Donc, à travers leur discours, peuvent enseigner aux enfants ou bien aux jeunes adultes, là, je peux dire ça comme ça, de faire des réparations puis aussi de prendre ça calme, un jour à la fois. Donc, penser, méditer, penser. T'sais, ils ont une belle sagesse, ils ont une belle sérénité en eux qui se sont souvent installés. Donc, c'est ça. Puis j'ai l'impression aussi que, par exemple, quand il y a des mères qui viennent ici, qui sont rendues dans un constat où est-ce qu'ils ont blessé leurs propres enfants, quand on a ici au centre des jeunes, des adultes qui ont été blessés par exemple, leur mère ou leur père, ils produisent des formes de lettres des fois, puis ces lettres-là, ils les lisent à voix haute. Ça, donc, ça fait en sorte qu'il y a une réparation aussitôt là, de qu'est-ce que tu aurais aimé entendre dans la position de mère et qu'est-ce que tu aurais aimé entendre dans la position de l'enfant.
Pour finir cet épisode, voilà un chant de guérison qu'a interprété pour vous Nicole, la conteuse que vous avez entendue dans le début de l'épisode.
Alors, le chant de guérison, c'est un chant que nous, on fait chez les Abénaki. Donc, c'est vraiment un chant, pas juste Abénaki, nous, mais toutes les Wabanaki, dans le fond. Les Penobscot, les Passamaquoddy, c'est un chant, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas l'origine, mais on sait que tout le monde chante ce chant-là. Ce qui varie, c'est souvent le rythme. Chez les Penobscot, ce chant-là est très lent. Chez les Passamaquoddy, il est un petit peu plus rapide. Et puis chez les Abénaki, il est très rapide. Il est beaucoup plus rapide. Il y a deux parties. Une partie qu'on dit, c'est vraiment pour appeler la guérison pour qu'elle vienne sur nous comme sur les autres. La deuxième partie, on dit que c'est vraiment pour aller rejoindre la personne qui en a le plus besoin. Kwe ha he no, kwe ha he no, kwe ha he no, kwe ha he no, kwe ha he no. Wehahenu, enu ya enu, enu ya enu ya, enu ya enu, enu ya enu ya, wehahenu. Kwe ha he no, kwe ha he no.
Nous remercions par ordre de passage Nathalie Basile-Guillemette et Nicole Obonsawin.
Cet épisode a été écrit et réalisé par Maude Leduc-Préfontaine et Charlie Mulot.
Il est soutenu par le comité d'organisation du colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes.
Et produit par notre compagnie, Les Murmures de la Méduse. Pour ce qui est de la musique, vous avez entendu des œuvres de Tristan Rolland que vous pouvez aller découvrir sur vertebral.bandcamp.com.
Merci pour votre écoute.
Et à bientôt.